VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver en ce mardi 15 septembre 2015 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous à la une ce matin.
Élections en RD Congo, des dirigeants de la majorité jugent suicidaire le jeu du pouvoir alors que des ONG appellent au respect du délai constitutionnel.
La Cour a eu tort de se référer à ses pouvoirs dits de régulation.
En Côte d'Ivoire, découverte d'une nouvelle victime des violences de la semaine dernière dans l'ouest du pays.
Pas d'accord unanime sur la répartition des 120 000 réfugiés dans l'Union européenne.
Dans la partie magazine, la colère au Togo face à l'Internet à faible débit.
Quand vous allez dans les banques, les gens ne cessent de pousser des jurons parce que la connexion ne marche pas.
La ministre de l'économie numérique.
Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de fibres.
Également de programme, la Minute Éco et le billet sportif.
33 ONG congolaises des droits de l'homme demandent au gouvernement de la RDC et à la Commission électorale nationale indépendante de ne pas utiliser l'arrêt de la Cour constitutionnelle comme prétexte pour ne pas organiser les élections législatives et présidentielles dans le délai constitutionnel. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a ordonné aux autorités de prendre des dispositions exceptionnelles avant la tenue de l'élection des gouverneurs de province pour faire régner l'ordre public et la sécurité. Une démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle par ces ONG. Au micro de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, leur porte-parole, Maître Georges Kapiamba.
Nous avons par exemple constaté qu'il n'existe aucune disposition dans la Constitution, moins encore dans la loi organique, qui pouvait fonder la Cour à s'autosaisir. La Cour a eu à s'arroger les pouvoirs qui sont réservés exclusivement au pouvoir exécutif par l'article 69. Et là, c'est un pouvoir qui est reconnu seulement au président de la République. Donc, nulle part dans la Constitution ou encore dans la loi organique, il est reconnu un quelconque pouvoir de régulation. Et ça ne peut pas s'entendre dans un état de droit. Donc, la Cour a eu tort de se référer à ce pouvoir dit de régulation sans pour autant indiquer un seul article de la Constitution ou de sa loi organique qui pouvait la fonder à les dire.
Tout à l'heure, dans notre segment magazine, nous entendrons l'analyse de Fidel Lumeya du Conseil pour la paix et le développement au Congo.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a mis en garde contre le risque de report des élections en République centrafricaine. Lionel Gaïma.
Après deux reports, les autorités de la transition en Centrafrique ont fixé la tenue des élections présidentielles et législatives au 18 octobre. Interrogé sur un éventuel report, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui assure la présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, a dit qu'il y a un risque que les élections ne puissent pas se tenir pour des raisons financières. L'organisation régionale avait annoncé à la mi-août le report de la fin de la transition en Centrafrique du 17 août au 30 décembre sans préciser si les élections se tiendraient ou non à la date prévue. C'est un report qui est embêtant, a déclaré Ali Bongo à l'issue d'un entretien avec le président François Hollande. Selon un communiqué de l'Élysée, les deux chefs d'État ont marqué leur attachement à la tenue des élections crédibles et transparentes en Centrafrique. Ils se sont aussi félicités de l'amélioration graduelle de la situation sécuritaire et de la baisse du nombre de déplacés dans ce pays.
Le corps d'un homme a été découvert hier en Côte d'Ivoire, portant à deux le nombre de victimes des violences qui ont suivi la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature du président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre. C'est ce que rapporte l'AFP. Jeudi et vendredi dernier, des manifestations avaient dégénéré en affrontements dans plusieurs villes du pays. Un homme âgé avait été tué et plusieurs personnes avaient été blessées à Loguata, petit village situé dans la région natale de l'ancien président Laurent Gbagbo. La commission électorale ivoirienne a annoncé hier que quelque 34 000 soldats, dont 6 000 casques bleus, assureraient la sécurité de la présidentielle, scrutin crucial pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Burkina Faso, la Commission nationale de réconciliation et des réformes a recommandé hier la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré, qui a été été chassé du pouvoir en octobre dernier par la rue. La commission a également préconisé un référendum sur une nouvelle constitution. Les Burkinabés se rendront aux urnes le 11 octobre prochain pour les élections présidentielles et législatives.
La Sierra Leone a connu un nouveau décès dû à l'Ebola dans une province qui n'avait plus signalé de cas depuis près de 6 mois. Des détails avec Timothée Donangmaï.
Une adolescente de 16 ans est décédée dimanche à Makeni, province de Bombali, dans le nord de la Sierra Leone. Selon les statistiques officielles, le dernier cas enregistré dans cette province remontait à 169 jours. La jeune fille avait montré des symptômes de la maladie le 8 septembre, mais n'a été hospitalisée que 4 jours plus tard. Ses parents, professeurs et camarades de classe sont sous surveillance, a indiqué à l'AFP Hamidou Forna, porte-parole du centre de traitement. Ce dernier cas ne semble pas lié au décès fin août d'une femme de 67 ans dans le village de Selakafta, dans la province voisine de Kambia. Ce village a été placé en quarantaine et plus d'une centaine de personnes se sont vues administrer un vaccin déjà expérimenté avec succès en Guinée.
En Namibie, 30 personnes ont été reconnues coupables hier de haute trahison par le tribunal de Windhoek pour leur rôle dans une tentative de soulèvement sécessionniste en 1999 dans la bande de Caprivi, située dans le nord-est du pays. Claire Morin-Gibourg.
C'est la fin d'une saga judiciaire qui aura duré 16 ans. En août 1999, un groupe de rebelles indépendantistes attaque la ville de Katima, Mulilo. 13 personnes étaient mortes au cours de ces attaques aux lance-roquettes, aux mortiers et aux fusils d'assaut contre un poste de police, un poste de frontière, une banque, une base militaire et un bureau de la télévision nationale. La rébellion avait été matée quelques jours après. Parmi les 30 accusés figure John Samboma, l'ancien commandant du mouvement séparatiste de l'armée de libération du Caprivi. Reconnu coupable de haute trahison, meurtre et tentative de meurtre après 6 jours de lecture d'un jugement fleuve, les accusés risquent tous la prison à vie. Au total, dans cette affaire, plus de 100 suspects ont été traduits en justice et 379 témoins ont été auditionnés. Seules 35 personnes ont été acquittées au cours de cette longue procédure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 28 États membres de l'Union européenne, réunis hier à Bruxelles, ne sont pas parvenus à un accord unanime sur la répartition de 120 000 réfugiés supplémentaires pour faire face à l'afflux de demandeurs d'asile. Henri Francisque.
Les débats ont été qualifiés de parfois enflammés au Conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Les participants étudiaient la nouvelle proposition de la Commission européenne qui leur avait demandé de relocaliser les 120 000 réfugiés de plus se trouvant actuellement en Italie, en Grèce et en Hongrie avec des quotas contraignants. Mais aucun consensus n'a pu être trouvé. En revanche, les États ont validé la décision de se répartir l'accueil de quelque 40 000 réfugiés en 2 ans. Plusieurs pays ont plaidé pour que davantage de moyens soient accordés à l'Agence européenne de surveillance des frontières pour lui permettre d'organiser les retours des migrants économiques irréguliers. Les ministres européens de l'Intérieur doivent se revoir les 8 et 9 octobre à Luxembourg pour rediscuter la répartition des réfugiés. Mais il n'est pas exclu qu'une rencontre soit organisée avant cette date.
La Californie était toujours en proie hier à des incendies dévastateurs qui ont coûté la vie à une personne et réduit en cendres des dizaines de milliers d'hectares dans le nord de l'État le plus peuplé des États-Unis. Au total, 12 grands feux ravageaient hier après-midi la Californie et mobilisaient plus de 11 000 pompiers. Les incendies se propagent à la vitesse la plus rapide jamais observée en 30 ans, d'après les services d'urgence. Selon l'AFP, plus de 21 000 personnes ont été évacuées de chez elles dans l'État et 15 400 structures restaient menacée par les feux. Nous y reviendrons en seconde partie de notre émission.
Toujours aux États-Unis, la justice a rejeté hier la demande de libération sous caution d'un ex-policier qui a choqué l'opinion publique mondiale en abattant de 5 balles dans le dos un Africain-Américain début avril en Caroline du Sud. Michael Slager, 33 ans lors des faits, a été arrêté et inculpé pour meurtre 3 jours après son acte, puis renvoyé des forces de l'ordre. Un fait extrêmement rare aux États-Unis.
À l'occasion de la venue du pape François du 19 au 22 septembre, les autorités cubaines ont créé un site internet et plusieurs comptes ad hoc sur les réseaux sociaux, une première sur l'île où l'accès à internet est très limité. Ces initiatives visent à fournir une couverture officielle à cette visite et à communiquer en temps réel avec le plus grand nombre en profitant de tout le potentiel offert par les réseaux sociaux, a indiqué le ministère des Affaires étrangères de Cuba.
Comme chaque matin, un résumé de l'actualité économique, la Minute Éco avec Claire Morin-Gébourg.
La Mauritanie et la Chine ont signé hier à Pékin 6 conventions de coopération dans plusieurs domaines de développement. Selon l'agence mauritanienne d'information, ces conventions portent sur la lutte contre le paludisme et l'augmentation du nombre de missions médicales chinoises en Mauritanie, mais également sur des accords de pêche maritime. La Mauritanie dispose de larges côtes sur l'océan Atlantique, réputées être parmi les plus poissonneuses au monde. La signature des conventions intervient dans le cadre de la visite d'État qu'effectue actuellement le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en Chine. Renforcement de la pisciculture au Cameroun. Un programme lancé dans la région du Nord en collaboration notamment avec la FAO a permis de produire 16 tonnes de poissons en 7 mois d'existence. Selon l'agence APA, ce projet pourrait fournir 100 tonnes de poissons sur 2 cycles annuels en phase de production optimale. La pêche est l'une des principales activités génératrices de revenus pour les populations avec la riziculture. Remaniement ministériel au Gabon. La présidente de la Confédération patronale gabonaise, Madeleine Baer, devient ministre du commerce, des PME, de l'artisanat et du tourisme. Selon nos confrères de Jeune Afrique, c'est une nomination surprise pour celle qui occupait la tête du patronat gabonais, qui regroupe 300 entreprises, qui emploient 90% des salariés du privé dans le pays.
Merci Claire. Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Jacques.
En football, tirage au sort des groupes de la CAN à des moins de 23 ans.
Oui, l'événement aura lieu du 28 novembre au 12 décembre au Sénégal. Et nous avons dans le groupe A le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, l'Algérie, le Mali et le Nigeria, les 3 premiers de ce tournoi. Les finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place obtiendront leur billet pour les JO de Rio en 2016. Parmi ces 8 équipes, seule l'Égypte a participé au précédent JO, c'était en 2012 à Londres, où elle avait été éliminée en quart par le Japon.
En Europe, match de la première journée de phase de poule de la Ligue des Champions.
Oui, dans le groupe A, le Paris Saint-Germain affronte les Suédois de Malmö. Les Espagnols du Real Madrid affrontent les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Dans le groupe B, Wolfsburg d'Allemagne joue contre les Russes du CSKA Moscou. Les Néerlandais du PSV Eindhoven affrontent les Anglais de Manchester United. Dans le groupe C, les Turcs de Galatasaray jouent contre l'Atlético Madrid et Benfica Lisbonne affrontent Astana du Kazakhstan. Dans le groupe D, le choc entre Manchester City et la Juventus Turin. Séville d'Espagne joue contre Mönchengladbach d'Allemagne.
Suite des Jeux africains de Brazzaville.
Oui, en lancer de marteau, Laetitia Bambara a offert au Burkina Faso sa première médaille d'or de l'histoire des Jeux africains. Avec 66,91 mètres, la championne d'Afrique en titre a pulvérisé du même coup le record des Jeux africains. En 10 000 mètres hommes, c'est l'Éthiopien Sebelou Zewedu qui a remporté la médaille d'or en 27 minutes 27 secondes 19, devançant le Kenyan Leonard Barsoton, 27 minutes 27 secondes 55.
Nouveau développement dans le scandale de corruption à la FIFA.
Oui, on a appris ce lundi que la justice américaine qui enquête sur la corruption à la FIFA prévoit d'engager des poursuites contre d'autres personnes et organisations. C'est ce qu'a indiqué hier à Zurich la ministre américaine de la justice, Loretta Lynch.
Enfin, en tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic fait encore mieux.
Oui, vainqueur de l'US Open dimanche dernier, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a encore accentué son avance en tête du classement ATP publié ce lundi. Dans ce nouveau classement, le Croate Marin Cilic, victorieux à New York en 2014, sort du top 10. Le Sud-Africain Kevin Anderson, tombeur de Murray en 8e de finale à New York, atteint le meilleur classement de sa carrière, la 12e place.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes bien branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide de retour avec vous. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Cap de nouveau sur la République démocratique du Congo, où sept leaders des partis de la majorité dénoncent dans une lettre au président Joseph Kabila, publiée hier, les stratégies suicidaires suivies selon eux par le pouvoir en entretenant la confusion sur la tenue des prochaines élections. Au même moment, le parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, annonce avoir rompu ses pourparlers avec le pouvoir pour parler destiné à préparer le dialogue national proposé par le président congolais pour des élections apaisées. Pour une analyse, Eddy Sango a joint le directeur du Conseil pour la paix et le développement au Congo, Fidel Lumeya.
Ça a pris beaucoup de temps aux gens de la majorité de venir et commencer à se dissocier de la position du président. C'est là où maintenant intervient le doute. Donc je crois que c'est ici où se trouve le problème. Il faut maintenant que le CET nous donne des évidences et des faits vrais. Parce que la population est sceptique à cause du passé où les gens n'ont jamais dit non, où ils ont dit non pour après changer leur position.
N'ont-ils pas raison parce que le président Joseph Kabila ne s'est pas clairement prononcé s'il briguera un mandat ou pas, alors que ses acolytes soutiennent qu'il faudrait bien qu'il reste. Ça montre quand même qu'il y a des velléités de rester de sa part, non?
Aucun article de la Constitution congolaise dit que le président, une année avant les élections présidentielles, ou trois mois, doit annoncer publiquement à la nation et au monde qu'il ne va pas se représenter. Ici, nous devons laisser au président de la République sa bonne volonté de dire, écoutez, je me prononce, c'est question de bonne foi. S'il ne le fait pas, on ne doit pas l'attaquer.
Les sept dirigeants de la majorité du groupe de G7 ne disent-ils pas la même chose que le président de l'UDPS qui a plutôt claqué à la porte aux préparations même des négociations en dénonçant l'impasse ou le manque de sincérité de la part de représentants de Kabila?
La stratégie du président de la République, il a trouvé des failles dans les accords qu'on a eus. Il veut qu'on mette en application tous ces accords, diviser les provinces en 26, aller aux élections des gouverneurs. Ça pousse le calendrier électoral. Jusqu'en novembre, nous ne passerons pas, à moins qu'on mette de l'argent. Donc, si moi j'étais politicien, ce que je veux demander au président de dire, écoutez, nous ne voulons pas du dialogue, laissons le calendrier tel qu'il est. On n'a pas un problème politique au pays, tu le crées. Nous avons un problème financier. Le calendrier électoral sera prolongé si nous ne trouvons pas de fonds. Mais regardons les recettes budgétaires. Là où nous pouvons trouver 5 000, 10 000, mettons cet argent ensemble, donnons à la CENI 2 000. Nous devons terminer le calendrier électoral, les 26 provinces, les questions des élections locales. Et puis 2016, nous allons aux élections. Le dialogue, on n'en a pas besoin.
Fidel Lumeya, directeur de l'ONG Conseil pour la paix et le développement au Congo.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
L'Internet à faible débit fait des grincements de dents au Togo. La lente connexion est devenue un véritable calvaire ces dernières semaines. Si les uns se résignent, d'autres craignent pour leur emploi. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une violation des droits humains. La ministre de l'économie numérique est montée au créneau pour se défendre. Pour elle, il s'agit d'un problème plutôt complexe. Un reportage à Lomé de Kay Lorson.
Tout le monde a des difficultés par rapport à la connectivité au Togo. Bon, on fait avec.
Le taux de pénétration de l'Internet est moins de 10% au Togo, selon les chiffres de l'ARTP, l'autorité de réglementation des secteurs des postes et de télécommunications. Mais la proportion de la population togolaise à avoir accès au haut débit est encore plus minime, 3,53% en 2014. Surfer au Togo est assimilable à l'ascension du mont Calvaire, estiment ses internautes.
Les Togolais sont en train de tirer le diable par la queue en matière de connexion Internet. La connexion Internet, il n'y en a pas du tout. Ça ralentit toutes les activités un peu partout.
La connexion, comme on le dit au Togo, ça chute et ça redémarre. Quand vous allez dans les banques, vous allez constater qu'il y a des files d'attente. Les gens ne cessent de pousser des jurons parce que la connexion ne marche pas. C'est difficile même de percevoir son argent parfois.
Tout le bruit qu'on nous a fait, des hauts débits, câbles sous-marins, je crois absolument aujourd'hui, ça n'a rien fait parce que la connexion Internet est inexistante. Et c'est dommage, ça ne fait que ralentir le développement de notre pays.
La ministre de l'économie numérique reconnaît que la connectivité fait défaut dans le pays. Plusieurs facteurs y concourent, relève Sidna Lawson.
Il y a des facteurs, par exemple, liés à l'absence d'infrastructures. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de fibres au Togo. Il y a des problèmes liés à la gestion. Il ne faut pas se leurrer. Nous aurons beau mettre en place la meilleure infrastructure au monde, si à l'intérieur, les sociétés dont le travail est de gérer ces infrastructures ne font pas bien le travail, ce ne sera pas bien géré. Donc, il y a d'autres problèmes. On va prendre un débit qui est trop faible et qu'on va partager avec un nombre trop important de personnes. Dans un cas comme ça, même si le réseau est bien géré, l'infrastructure est là, l'utilisateur final aura l'impression que ça marche mal.
En plus des raisons évoquée par la ministre, ce Togolais a son explication du mauvais débit de la connexion Internet.
Selon certains dires, c'est parce que le Togo s'est connecté avec une seule fibre optique, alors que le Ghana s'est connecté avec 6 fibres, le Nigeria 10 fibres, donc par conséquent, le Togo aura toujours des problèmes. Et en écoutant la ministre la fois dernière, elle est en train de donner des arguments qui ne tiennent pas. Elle dit que voilà, les administrations seront connectées par la fibre optique et nous, qui sommes les populations, les citoyens, comment on va profiter de cette fibre optique?
Emmanuel Acha est journaliste. Il affirme que l'état de la connexion dans le pays impacte son travail.
Par exemple, tu es obligé d'attendre parfois la nuit à 3h ou à 2h du matin lorsque les Togolais ne sont pas connectés pour avoir une meilleure connexion. Tu as le son à envoyer par exemple, tu envoies, ça tourne, ça ne part pas. Ça impacte énormément sur notre travail. Pour envoyer par exemple une vidéo, on est obligé d'aller au Ghana.
Dénonçant une violation du droit à la télécommunication, le mouvement Martin Luther King interpelle le gouvernement togolais. Pasteur Edo Komi, président du dit mouvement.
C'est une violation des droits humains parce que la Constitution togolaise reconnaît le droit à la télécommunication. Donc aujourd'hui, les Togolais sont lésés dans leurs droits. Ils n'arrivent pas à communiquer. À communiquer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez être sur un petit fichier pendant des heures par manque de connexion. Et c'est cela notre combat pour redresser les choses. Il revient à l'État togolais de prendre des mesures pour que les Togolais puissent travailler convenablement avec l'Internet.
Le Togo ambitionne de développer le secteur des télécommunications. Le cap, c'est d'arriver à atteindre 15% du taux de pénétration de l'Internet en 2016. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Gros plan à présent sur le conflit syrien. L'envoyé spécial américain pour la coalition internationale de lutte contre le groupe État islamique, John Allen Marine, est d'avis que des progrès remarquables ont été réalisés au cours de la dernière année, tout en soulignant que c'est une solution politique qui mettra fin au conflit en Syrie. Pour en parler, Nathalie Barge s'est entretenue avec l'expert en politique orientale, Émile Baroudi.
Tout montre que la position du président Assad commence à être vraiment périlleuse. Les Russes qui ont annoncé un détachement de forces aériennes qui va aller s'installer sur l'aéroport de Latakia, en faire une base de l'aviation russe, montrent vraiment que les Russes ont besoin d'être sur place et d'agir eux-mêmes. Le problème, c'est que les Russes ne font pas partie de cette coalition qui a été formée pour combattre l'État islamique. La Russie aussi, au dire du général Soleimani, a accepté que l'Iran aussi envoie des hommes armés en Syrie. Tout donne l'impression que la situation militaire du président Assad n'est pas très bonne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tout le monde fait? Ils vont essayer, les Russes surtout, de garantir au président Assad une petite principauté sur la côte avec Latakia, le pays alaouite chrétien et alaouite du nord-ouest de la Syrie. Et l'Iran ne peut pas faire autrement qu'acquiescer. Je crois que ça l'arrange aussi d'avoir un poste avancé sur la Méditerranée.
Est-ce que la lutte contre le groupe État islamique est vraiment une lutte aussi importante dans le monde?
Il est vraiment nécessaire de se débarrasser de ce groupe de l'État islamique parce qu'il va à l'encontre de toutes les normes, de tous les principes humanitaires, toutes les normes de politique, toutes les normes de dialogue. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le comment. On a vu la campagne aérienne de la coalition qui a été formée pour combattre le groupe de l'État islamique. Les frappes aériennes ont eu lieu, mais ce n'était pas fameux. On l'a vu au Yémen aussi. Donc les frappes aériennes ne peuvent pas agir tout seules. Il faut qu'une force armée terrestre prenne le relais et achève les points d'infection qui vont rester après que toutes les frappes aériennes ont eu le maximum d'effets.
Est-ce que vous pensez réellement que ce groupe a vraiment des infiltrations dans tous les pays, quasiment, les pays occidentaux, et que c'est leur objectif?
Le problème avec des groupes pareils, c'est que c'est nous solitaires qui peuvent être dans n'importe quelle société. C'est souvent des gens psychologiquement instables, donc ils sont capables de tout. Et aussi, n'oublions pas, ils sont bien camouflés, ils sont dans leur société. S'ils ne montrent pas vraiment leurs intentions, on peut passer à côté d'eux sans le savoir. Donc c'est des gens qui vont être directement ou indirectement activés par des ordres venus de l'État islamique. C'est le problème en fait du terrorisme, c'est comment une seule personne, avec pas beaucoup d'armes, rien de très sophistiqué, peut quand même infliger des pertes énormes à une société si elle n'est pas découverte à temps.
Émile Baroudi, journaliste à Washington, D.C.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Aux États-Unis, nous vous le disions un peu plus tôt dans le journal, les incendies continuent de se propager en Californie, des feux favorisés par des vents secs et violents et par une sécheresse persistante. Le gouverneur de cet État, Jerry Brown, a décrété l'état d'urgence dans les comtés de Lake et Napa. Le comté de Napa, connu d'ailleurs pour ses grands vins, l'inquiétude grandit chez les vignerons alors que l'incendie se rapproche. Plus de 36 000 km² d'hectares ont déjà été calcinés depuis le début de l'année. Claire Morin-Gibourg a rejoint l'assistant de l'œnologue de Vérité Winery, Timothy Scott.
Les feux sont un peu juste au nord de la frontière de Napa et Sonoma Counties, c'est-à-dire que ça couvre tout le sud de le Lake County.
Est-ce que les vignerons commencent à être très inquiets? Est-ce qu'ils commencent à prendre des mesures de sécurité?
Surtout, ils commencent à prendre des mesures de sécurité pour leurs équipes, parce qu'il y a plein d'employés et plein de monde qui vit à la Lake County. C'est des gens qui travaillent dans les vignes. Il y a plein de familles et plein des ouvriers qui sont déplacés par le feu. Donc, la première chose, c'est d'essayer de loger ces gens-là et puis de trouver quoi manger. Et puis, deuxièmement, c'est de voir où on peut commencer à bâtir le feu. Ça commence à brûler plein puissance là. Mais heureusement, le temps a changé un peu. Il n'y a presque pas de vent aujourd'hui. Il y a des nuages, il y a un petit peu de mist ou de pluie ce matin.
De brouillard?
Le brouillard, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le temps. Et je crois que dès que le brouillard commence à s'enlever, on peut commencer à bâtir le feu avec les avions et les hélicos.
Bien entendu, si le vignoble est brûlé, c'est absolument terrible pour les vignerons. Mais si le feu s'approche du vignoble, ça peut avoir aussi des conséquences. Ça vous est arrivé par le passé, c'est bien ça?
Pour nous, c'est vrai que dans la région de Sonoma, on avait des feux sur les montagnes en 2005 et 2008, où ça a posé un petit problème parce qu'il y avait du cendre qui est tombé sur les raisins et sur les vignes. Et dans quelques parcelles ou quelques vignobles, ça a commencé à donner un goût un peu fumé sur quelques raisins qui restaient dans les vignes. Mais heureusement pour nous, on a déjà tout ramassé, mais sur la majorité des gens dans la région de Sonoma et bien sûr le nord de Napa, ils n'ont pas commencé à ramasser les rouges. Donc tous les cépages rouges qui sont là encore dans les vignes, ça pose un problème si le feu commence à descendre plus sur le sud dans la région de Calistoga et vers l'ouest sur la région de Knights Valley et Alexander Valley.
Timothy Scott de Vérité Winery, quelqu'un qui se connaît bien en vin.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92. 425-8-42-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson était à la réalisation. Notre ingénieur ce matin était John Ellison. Merci à vous, chers amis de la VOA, pour votre fidélité. Très bonne journée. Rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Take care.